Bon, on va continuer ces conversations sur le mois de l'histoire des personnes noires. Le deuxième invité que je reçois aujourd'hui s'appelle Laurent Francis Ngoumou. C'est un expert en questions de droit d'asile. Il termine un doctorat en travail social à l'Université Laval, notamment sur l'intégration et l'intervention sociale dans un contexte de minorité sexuelle et aussi sur les politiques de migration internationale et de santé mentale. Écoute, je lisais son CV et je me disais, ça va me prendre à peu près toute l'émission pour en parler, mais je vais juste continuer puis on va aller à lui tout de suite. Camerounais d'origine, il poursuit donc ses études au Canada et s'implique dans plusieurs organisations d'aide aux personnes immigrantes et réfugiées, notamment au Conseil des agences de services aux immigrants de l'Ontario, comme intervenant psychosocial à Interling, chargé de recherche à l'Université de Montréal. Il est aussi engagé dans une myriade d'organisations queer, pour les personnes immigrantes et les personnes noires. Misère, je l'ai dit, un CV comme ça, c'est une bonne douzaine de pages. Bienvenue à l'émission, Laurent Francis.
Oui, merci beaucoup à Chloé qui est partie tout à l'heure et merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. On est là pour bâtir un Canada multiculturel, on est là pour bâtir un Canada qui sera un exemple des pays à travers le monde, au fait.
Ben justement, je pense qu'avec des personnes comme toi et Chloé, elle est encore en studio, Chloé, parce qu'elle voulait entendre l'entrevue. Fait que si jamais tu le permets, ça se peut qu'elle intervienne parce qu'elle m'a dit qu'elle t'aimait beaucoup.
Oui, elle pourrait intervenir, pas de souci.
Alors, Laurent Francis, parce que c'est une tradition, lorsque nous avons une nouvelle personne à l'émission, on lui demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi.
Ben, moi, j'utilise tous les prénoms, mais tu peux m'appeler il, elle ou ils. Moi, je n'ai pas de problème avec.
D'accord.
Moi, je n'ai pas de problème.
Alors, commençons avec justement ce mois de l'histoire des personnes noires. Quelle importance ce mois devrait-il avoir pour les personnes noires et queer?
L'importance est de, pour moi en tant que chercheur, l'importance est de, ce mois est de permettre de faire voir les recherches qui ont été faites jusque-là. Et où est-ce que, qu'est-ce que proposent les chercheurs noirs, QR-LGBTQ, au fait aussi, en termes de solutions pour améliorer nos conditions de vie et pour améliorer aussi nos réalités sociales. Quelle perspective? Donc, parce que moi, je me positionne beaucoup plus dans la recherche des solutions, dans ma recherche, au fait. Et c'est pour cela que je pense que c'est ça que représente le mois de l'histoire de moi pour moi. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement le mois de février, mais pour les 365 jours de l'année.
Tout à fait. Je vais quand même te demander, Laurent Francis, être une personne noire et queer en 2024 au Canada, c'est quoi cette réalité-là? Je te le demande en tant que chercheur, puis tu peux peut-être même mettre tes expériences personnelles si tu veux là-dedans.
En tant que queer, personne noire en 2024 au Canada, c'est un grand fardeau, en fait. C'est un grand fardeau. C'est accepter que, il y aura des barrières qui vont se placer devant nous. C'est accepter que, le système en place n'est pas ouvert. C'est accepter que, on va devoir batailler. C'est accepter que on va devoir être puissant. C'est accepter qu'on va devoir, être plus intelligent et plus être confronté aux insultes tous les jours, au fait.
Ce qu'on appelle les micros et peut-être même parfois des macro-agressions, finalement.
Oui, être une personne noire et queer aujourd'hui, ça veut dire que attendez-vous à être de vivre des actes xénophobes de la part des communautés noires. Attendez-vous à être vivre des actes de racisme des communautés blanches LGBTQ. C'est attendre que même l'Église vous rejette. C'est attendre vivre seul entre toutes ces deux communautés, au fait.
Oui.
Parce que je lui dis, pourquoi est-ce que je lui dis? Je lui dis souvent parce que de mon expérience et aussi de mes analyses en tant que chercheur, durant le mois de l'histoire des Noirs, on n'appelle pas souvent les personnes noires queer à aller intervenir lors des conférences. Ben, c'est beaucoup plus, j'ai l'impression que durant le mois de l'histoire des Noirs, on est invisibilisé. Mais les communautés noires deviennent subitement hétéronormatives, au fait.
Ouf.
Donc, et les seules fois que j'ai été invité, il faut le dire, c'est dans les communautés blanches durant le mois de l'histoire des Noirs. Ce n'est pas les communautés blanches, au fait. On dirait que dans nos communautés, il y a encore beaucoup de tabous ici au Canada. Il y a encore beaucoup de tabous. J'ai vu la majorité des programmes. En aucun programme, j'ai vu parler des personnes intersectionnelles, personnes LGBTQQ. On ne parle pas de ces personnes à l'intérieur de nos communautés. Et aussi, c'est cette invisibilisation-là qui continue de toutes parts, au fait, aussi. C'est attendre à mener un combat coriace, vraiment.
Wow, ça dit beaucoup de choses, hein? Ça nous touche beaucoup. J'aimerais juste quand même, j'espère que nous ne sommes pas considérés comme une communauté blanche ici, parce qu'on essaie vraiment de s'associer et d'ouvrir nos cœurs et nos portes et nos micros à tout le monde. Et moi, je dois dire que Laurent Francis m'a contacté sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça génial. On a fait une entrevue il y a quelques semaines. On a parlé de l'équité dans l'emploi. Et c'est quelque chose qui le tient à cœur. Puis je pense qu'on pourrait peut-être justement aller plus précisément l'équité. C'est quoi la situation dans le domaine de l'emploi en ce qui concerne l'équité pour les personnes queer et noires? Laurent Francis, ça, c'est ton domaine.
Oui, l'équité aujourd'hui, si on parle de l'équité aujourd'hui au Canada, il faut aller dans l'histoire, au fait, déjà, de connaître qu'au Canada, dans les années 1970 et 60, entre 1970 et 80, les syndicats, les groupes de femmes et les autres organisations étaient préoccupés par l'équité et les barrières qui empêchaient de nombreux Canadiens d'avoir ça à l'emploi. Et ces syndicats et ces femmes ont mis la pression au gouvernement, aux pressions sur les gouvernements fédéraux et provinciaux pour qu'ils prennent les mesures appropriées face à cela. C'est suite à ces pressions que, en 1986, le gouvernement fédéral crée une loi, met en place une loi sur l'équité en matière d'emploi. Et cette loi contenait quatre groupes de personnes: les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Et on s'est rendu compte que donc, ça veut dire que la loi, elle est là depuis 1986. Et aujourd'hui, quand on fait les bilans en 2024, on se rend compte que beaucoup de groupes, plus particulièrement les personnes noires, queer, sont encore invisibilisés et ont encore des problèmes d'accès à l'emploi de nos jours. Et la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que cela arrive de nos jours encore? Mais maintenant, lorsque j'irai regarder les données probantes, par exemple, on a, par exemple, Paul Heath qui a fait une étude sur le problème d'accès en 2012 pour les immigrants à l'emploi. Et il a démontré que les personnes immigrantes étaient discriminées à l'emploi. Si combien de fois les personnes immigrantes sont discriminées à l'emploi, combien de fois les personnes LGBTQ là-dessus? On revient sur les études que Jade Admet a menées en 2017 sur le rapport sur le racisme systémique en région de Montréal, où dans ce rapport-là, elle démontre aussi les problèmes d'accès à l'emploi que vivent les personnes noires LGBTQ. On a le rapport en 2017 toujours, on a le rapport de la Fondation Yasmine Roy qui démontre que les personnes noires LGBTQ ont des problèmes d'accès à l'emploi. Et on a aussi une enquête menée même aussi récemment par l'organisme Enchanté. Et moi-même, en fait, aussi, j'ai écrit un guide avec Franco-Cueur en Ontario, où j'ai mené une enquête auprès de 36 personnes immigrantes LGBTQ. Et là, ces personnes, dans mes recommandations et dans mon enquête, je démontre, en fait, aussi, ces personnes démontrent qu'ils ont les problèmes d'accès à l'emploi. Donc, la question que je pose, c'est que depuis 1986 jusqu'en 2024, pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas toujours, on parle toujours du même problème, pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas toujours intégré les emplois au fédéral dans différentes organisations et qu'est-ce qui bloque au fait? Qu'est-ce qui bloque?
Wow.
Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire que est-ce que le gouvernement en place fait du tokenisme? Il faut comprendre ici que le tokenisme, c'est une forme qui consiste à dire, à prendre des noirs dans des postes dans des postes, pas de décision. Le tokenisme, c'est une manière de, attendez,
Le faire valoir, en fait, hein, faire valoir
c'est une
plusieurs.
pratique à laquelle un groupe ou une
Ouais.
organisation a recours, un organisme a recours afin d'inclure des personnes noires minoritaires dans le but de pouvoir les taguer, d'être inclusif, alors que au fond, ça n'existe pas, en fait. Est-ce qu'alors, ou alors, est-ce qu'ils font du pinkwashing? C'est la question qu'on se pose au fait. Parce que moi particulièrement, je prends de mon expérience là et de mes amis qui vivent sur Montréal, des personnes noires, des personnes trans noires, qui ont toujours postulé des postes à des emplois, qui ont des compétences, mais jamais ont été recrutés. Jamais on les a recrutés. Je parle de mon expérience là, mais on parle toujours chaque année de l'équité en matière d'emploi, de recruter des personnes compétentes noires. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en fait. Il y
Je
a.
vais devoir, je vais devoir accélérer parce que notre temps coule, s'écoule, puis
OK.
je veux vraiment savoir, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être faites aujourd'hui pour améliorer le sort des personnes queer et noires?
Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, peuvent être faites aujourd'hui. Par exemple, le gouvernement fédéral, par exemple, et les organisations peuvent recruter des personnes, des chercheurs noirs LGBTQ, qui font de la recherche sur ces problématiques-là, travailler ensemble avec les organismes qui travaillent dans ce domaine-là et réfléchir ensemble au fait. Qu'est-ce qui se passe souvent dernièrement lorsque le gouvernement invite autour de la table à faire des réflexions en ce qui concerne les noirs LGBTQ? On invite seulement le milieu communautaire. Et le milieu communautaire, alors qu'il laisse le milieu de la recherche, on n'appelle jamais les chercheurs, parce que ensemble, le milieu communautaire et le milieu de la recherche, nous sommes importants, mais on doit travailler ensemble, au fait, pour apporter des solutions novatrices et des solutions qui vont permettre un changement. Et aussi, on se retrouve, lorsque moi j'ai assisté à certaines conférences où on parlait de cette thématique-là, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont peut-être fait, je ne veux pas les enlever leur travail, mais qui ne sont pas de nos communautés et parfois qui ne maîtrisent pas les véritables enjeux. Qu'est-ce qui bloque au fait?
On va devoir s'arrêter là-dessus. Laurent Francis, my God, on va te réinterviewer. Tu as tellement de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Francis est un grand chercheur des communautés queer et noires.